Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hello, hello, c'est Anthony, journaliste mode pour Mademoiselle, et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes pour remonter le fil de la mode. Ce matin, en m'habillant, j'ai sorti de mon congélateur un pull en laine et angora. Non, non, pas de mon placard, de mon congélateur, où il a passé la nuit, parce que j'avais espoir qu'il lâche un peu moins de poils partout. Ouais, c'est encore une astuce de mode un peu chelou, je vous l'accorde, qui fonctionne à moitié, mais c'est toujours ça de gagner. Parce qu'un pull en angora, c'est somptueux, on dirait un nuage tout dufteux. Mais ça lâche des poils partout, car en fait, c'est pas de la laine de mouton, mais des poils de lapin. Donc beaucoup plus court et complexe à filer. Quoique angora, ça peut aussi vouloir dire chèvre. En fait, angora, sur une étiquette, ça peut désigner différents animaux aux poils longs et soyeux. Et sur l'étiquette de mon nuage poilu, c'est écrit 75% laine, 25% angora. En fait, encore une fois, on peut vite s'y perdre sur l'étiquette. Entre laine tout court, laine mérinos, laine d'agneau, angora, mohair aussi parfois, quand ce n'est pas mélangé à de l'acrylique ou du polyester. Alors pour essayer de comprendre tout ce charabia, mais aussi comment sont élevés, tondus et surtout traités ces animaux, j'ai appelé une tisserande et lainière. Elle s'appelle Olivia et vit au plus près des brebis avec son compagnon éleveur. Ensemble, ils ont cofondé Laine Paysanne, c'est un projet établi dans les Pyrénées. Avec son équipe, Laine Paysanne contribue à structurer une filière de laine locale et pleinement responsable. C'est pour ça que j'ai choisi Olivia. Avec elle, on va parler des différentes laines naturelles, des matières synthétiques qui les imitent, et comment bien entretenir un pull sans qu'il ne bouloche ou ne rétrécisse à la machine. Mon grand drame. Au fait, depuis quand est-ce qu'on fait des pulls en laine, ou des vêtements en laine en général ?
Alors, je pense que ça remonte à très très loin, puisque ça va remonter au néolithique. Au moment où l'homme a domestiqué le mouton, justement pour pouvoir récupérer sa fibre. En fait, c'était un animal qui a permis de répondre à ses besoins primaires, hein, à savoir se vêtir et s'abriter.
Et justement, c'est quoi les propriétés de la laine spécifiquement ?
Et la laine, elle est ce qu'on appelle thermorégulante, c'est-à-dire qu'elle va, elle va réguler la température du corps en fonction de la température extérieure. Donc c'est très très confortable. Et ensuite, c'est une fibre qui va être plutôt flexible et plutôt élastique. Et cette élasticité, elle va permettre d'avoir des vêtements qui sont plutôt souples, qui vont être du coup confortables et qui vont avoir une résilience. Donc ça a une incidence sur la qualité des vêtements. Et ensuite, propriété très importante, c'est que la laine, ça régule l'humidité. Donc ça veut dire qu'elle elle évite la transpiration avec toutes les mauvaises odeurs que ça peut engendrer. Donc c'est une fibre, on va dire, qui est exceptionnelle et inégalable en termes de propriété pour le textile.
D'ailleurs, est-ce que c'est vrai que c'est antibactérien ?
La laine, elle est réputée antibactérienne, tout comme le lin d'ailleurs. Le mélange de toutes ses propriétés, donc antibactérienne, mais aussi le fait que ça régule l'humidité qui va éviter ces mauvaises odeurs. En fait, c'est une fibre qui est vivante et qui respire.
Ouais, c'est génial. Donc c'est thermorégulateur, c'est assez résistant et c'est antibactérien. Donc ouais, c'est trop cool pour l'habillement. Justement, je me pose des questions par rapport à tout ce qu'on voit sur les étiquettes. Donc parfois, on voit des vêtements en cachemire, ou en laine d'agneau, ou en laine mérinos. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la terminologie de tous ces termes ? Qui est qui ? On ne sait plus qui est qui.
Alors, en fait, il ne s'agit pas forcément des mêmes animaux. La mérinos, ça va désigner une race de moutons. Donc, quand on parle de laine, normalement, on parle de laine de mouton. En fait, c'est les fibres qui sont propres aux moutons. En ce qui concerne les autres animaux qui produisent, par abus de langage, on dit de la laine, mais en fait, ce sont des animaux producteurs de fibres, tout simplement. On va avoir des mélanges de fibres différentes dans les toisons, entre le mohair, l'alpaga, le mouton, le cachemire, etc. Ce qui va entraîner des variations en termes de douceur, en termes de légèreté, en termes d'aspect esthétique aussi.
Par exemple, l'angora, il me semble que c'est un lapin. Pourquoi est-ce qu'on parle de laine d'angora ? Ça aussi, c'est un abus de langage.
Alors ouais, en fait, c'est de la fibre d'angora plutôt. Effectivement, l'angora, ça vient du lapin. Si on prend l'exemple du mohair, en fait, le mohair, c'est le nom de la fibre qui est produite par la chèvre angora. Donc chaque animal a son petit nom et sa fibre qui correspond. Après, on a les fibres de camélidé, donc tout ce qui va être lama, alpaga. On va avoir la chèvre cachemire, on va avoir le yak, on va avoir... Enfin, il y a tout un tas de fibres utilisables, en fait, un peu partout dans le monde.
Et justement, nous, en France, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas de cachemire, j'imagine.
On n'a pas de cachemire, on a principalement du mouton et on a aussi pas mal d'élevage de chèvres angora.
D'accord. Et le cachemire, c'est plutôt ce qu'on trouve en Inde, dans la région du cachemire, précisément ?
Tout à fait. En termes de cachemire, il y a peut-être quelques élevages en France, mais on va dire que ça reste assez marginal, c'est pas une production très représentée.
D'accord. Donc on peut faire des vêtements pour une ferme, mais pas pour toute la France entière, quoi.
Voilà. Cachemire français. Ouais, je pense.
Et toi, qu'est-ce que tu as dans ta ferme ?
Alors nous, on a des brebis tarasconnaises. C'est les brebis qui sont les plus présentes en Pyrénées centrales. C'est des brebis qui ont des hautes pattes et du coup qui vont être bien adaptées aux conditions de montagne et qui vont bien marcher pour partir en estive. Donc l'estive, c'est quand les bêtes montent en montagne les 4 mois d'été pour aller profiter de l'herbe de bonne qualité en montagne.
Comment on passe concrètement du mouton qui broute dans les champs à mon pull préféré ? C'est quoi les étapes ?
Alors en fait, il y a plein d'étapes. C'est pour ça que la laine, elle est souvent transformée aussi à l'étranger. C'est parce que c'est une matière à forte valeur ajoutée. Elle demande beaucoup d'étapes de transformation et du coup, beaucoup de main-d'œuvre et de savoir-faire. La première étape, c'est qu'elle est tondue pour devenir finalement une matière première textile. Donc nous, pendant la tonte, on va la trier à la main de façon à sélectionner les plus belles qualités de laine et puis les couleurs naturelles aussi. Ce tri, il est important parce qu'il va permettre de sélectionner les fibres les plus longues pour ensuite faire le fil. Ça va permettre d'enlever tous les corps étrangers, enfin un maximum. Donc ça va permettre d'optimiser la qualité. Donc ça, c'est une étape qui est importante. Ensuite, il va falloir qu'elle soit lavée. Le lavage, ça va permettre de la débarrasser de ses graisses principalement, ce qui va aussi enlever les odeurs de mouton. Et ça va permettre de la débarrasser d'une partie des poussières et des impuretés. Donc le lavage, c'est très important pour que la matière première puisse être industrialisée ensuite et passer dans des machines. Une fois qu'on a cette laine lavée, elle va partir en filature. Donc c'est là qu'on va obtenir le fil. Et une fois qu'on a nos cônes de fil, et ben on va pouvoir aller au tricotage pour s'occuper de la mise en forme des pulls et des vêtements.
Est-ce que le tri se fait tout le temps à la main ou c'est rare et c'est justement parce que vous faites ça de manière assez artisanale ?
Alors le tri de la laine, c'est plutôt assez rare parce que déjà ça demande d'être sur tous les chantiers de tonte et d'être en proximité avec les éleveurs. Nous, on y voit beaucoup d'avantages par rapport à la traçabilité, par rapport au lien entre les conditions d'élevage et la qualité de la matière première. Mais forcément, ça implique des coûts de transformation qui sont élevés. Donc souvent, sur des quantités beaucoup plus industrielles, on va opter pour d'autres techniques. Soit on va passer par du peignage, ou alors on a accès au plus près en Belgique, sinon aussi en Europe, à un autre process qui s'appelle le carbonisage. Donc là, qui est un nettoyage chimique de la laine. La laine carbonisée, en fait, je pense que c'est la plupart des laines industrielles qu'on va trouver dans le commerce. Autant dire que d'un point de vue écologique, c'est pas l'idéal.
Cette étape du carbonisage, elle pollue, j'imagine, beaucoup.
Mais ça consiste quand même à faire tremper la laine dans de l'acide sulfurique. Donc même si on est sur des circuits de bassins fermés, bon, ça reste l'usage de ce produit-là. L'idée, c'est que cet acide, il va brûler, en fait, tous les végétaux qui sont contenus dans la fibre animale qui, elle, va moins craindre l'acide. Mais forcément, la qualité est altérée à un moment donné.
Qu'elle soit carbonisée ou pas, on parlera quand même de laine vierge, parce que c'est de la laine qui vient du mouton directement. Ça veut dire quoi, laine vierge, concrètement ?
Laine vierge, ça veut dire que c'est 100% pure laine et qui n'est pas traitée. Mais cette étape, elle est considérée plus ou moins comme une étape de lavage et pas comme une étape d'après. C'est pas un traitement supplémentaire une fois qu'on a le fil. Donc oui, laine vierge peut être carbonisée. Mais après, c'est vrai que c'est des filières qui sont mondialisées, donc c'est pas forcément simple d'avoir accès aux informations dans le détail de la transformation et de comment ça a été fait.
Ok, donc si je récap, pour faire un pull, Olivia et son équipe vont d'abord tondre leur brebis une fois par an, puis trier la laine à la main avant de la laver, la filer et la tricoter. Mais cette étape du tri à la main, elle peut être remplacée par du peignage mécanique ou par une autre technique qu'on appelle du carbonisage qui se fait dans un bain d'acide sulfurique. Mais ça, c'est évidemment pas marqué sur l'étiquette. Parce que ces étapes se font parfois entre plein d'intermédiaires dans plein de pays différents, donc hyper dur à tracer. Et sinon, est-ce que on a une idée de où se situe la France dans la production de laine ? Est-ce qu'on en produit beaucoup ou pas du tout ?
On est bien loin derrière la Chine, derrière la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, sachant que déjà rien que la production européenne de laine, elle est bien inférieure à la production de la Chine. Donc pour avoir des petits chiffres comparatifs, la Chine c'est 340 000 tonnes produites par an. Et la France, c'est 14 000 tonnes.
Ah oui, d'accord.
Donc on est quand même loin derrière. On peut pas dire que la France soit un grand pays producteur de laine, pas du tout. Mais par contre, on peut dire que la laine, elle est là. Elle fait partie des ressources. Elle est issue de l'élevage ovin, donc elle demande pas d'énergie supplémentaire pour être produite. Donc elle mérite vraiment à être valorisée localement. Ce qui est pas trop le cas aujourd'hui.
Pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à relocaliser la laine en France ? La production de laine et la transformation de laine ?
mais en fait, l'intérêt qu'on va avoir, c'est d'avoir plus de proximité et plus de traçabilité. Donc, ça va tout simplement permettre d'avoir une meilleure maîtrise des choix de production, de pouvoir vraiment choisir comment on travaille et pouvoir choisir de bien travailler avec tous les critères éthiques et environnementaux qu'on peut avoir. Moi, je trouve que cette proximité-là et cette relocalisation, elle va permettre le bien-être animal, ça c'est clair, parce que quand on travaille en proximité, on peut savoir comment ça se passe vraiment et on peut construire aussi tout le partenariat avec les élevages. Ça me paraît fondamental. Ça permet d'avoir des process qui sont écologiques et qui ont une empreinte carbone limitée puisqu'on limite vraiment les transports. Ça va permettre d'avoir aussi plus d'impact sur la qualité du vêtement puisqu'on va pouvoir avoir une sélection rapprochée des matières, etc. D'avoir vraiment cette vue globale sur la filière. Ça va permettre aussi de garantir les conditions de travail et de rémunération de tous les gens qui font la filière et qui fabriquent le vêtement de A à Z. Ça, c'est hyper important. Et puis, je trouve qu'il y a aussi toute une dynamique... Enfin, nous, on le voit beaucoup à travers le projet Laine Paysanne, c'est qu'il y a toute une dynamique sociale qui est super importante, en fait. Ça crée beaucoup de vie entre les éleveurs, les transformateurs. Ça crée de l'échange de compétences, de savoir-faire. Donc, d'un point de vue lien social, je dirais que c'est super important. Et c'est aussi de la création d'emplois. Tout simplement. Créer de l'emploi en milieu rural, c'est quand même pas rien. Et puis après, je dirais que ça permet aussi de favoriser une économie circulaire et proximité. C'est un point qui nous tient très à cœur. Ça nous permet aussi de valoriser le prix d'achat aux éleveurs de la laine, parce qu'on parlait de cette perte de qualité tout à l'heure. C'est plus facile d'initier une sélection sur la matière première et d'avoir des démarches qualitatives de la part des éleveurs si on améliore le prix d'achat. Je ne sais pas comment ça se passe sur les filières internationales, mais il y a quand même beaucoup plus d'intermédiaires. Donc forcément, là, ça permet aussi qu'il y ait une partie plus importante du produit fini qui revienne aux producteurs. Donc ça, c'est un point très important.
Quels seraient les freins à cette relocalisation de la laine en France, à ton avis?
Ils sont pour l'instant pas insurmontables, mais en fait c'est vrai que c'est des vrais enjeux. Il y a cette histoire vraiment d'implication des éleveurs, puisque c'est finalement leur façon de travailler qui va être déterminante pour la qualité de la matière première, et une matière première de qualité est indispensable pour avoir un produit fini de qualité. Donc en fait, sans les éleveurs, on peut rien faire. Ça, c'est vraiment important de se dire que à toute démarche de valorisation de la laine, c'est hyper important que les éleveurs soient impliqués. Donc ça, c'est un enjeu très important. Ensuite, je dirais qu'il y a un autre enjeu de taille, c'est la sauvegarde et la transmission des unités de transformation existantes, qu'elles soient artisanales ou industrielles, parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur une filière qui est extrêmement fragile en France. Il reste assez peu de lavage de laine. Il y a des outils de transformation dont les gérants sont proches de la retraite, qui n'ont pas forcément transmis leur savoir-faire. Donc si on veut continuer à produire en France, il faut qu'il y ait encore les unités de transformation qui vivent et qui se développent et se transmettent. Ça, c'est important. Et puis il y a aussi cette sensibilisation au prix d'un vêtement qui est fait avec des matières nobles et qui est fait localement, parce qu'aujourd'hui sur du vêtement fait en France, le prix est encore un frein important.
Oula, ouais, j'imagine que ça coûte clairement un bras, un pull en laine française, trié à la main, transformé dans l'hexagone, sans carbonisage. Mais comme le raconte Olivia, ce prix se justifie aussi parce qu'il permet de rémunérer à leur juste valeur des savoir-faire locaux et artisanaux. Ça permet aussi un meilleur suivi du bien-être des animaux, puisqu'on est tout près d'eux. Toutes ces minutieuses étapes de valorisation de la laine ont un coût. Mais ce que je comprends pas, c'est comment un pays comme la France, qui kiffe autant le fromage et la viande d'agneau, par exemple, ne dispose pas d'une meilleure filière laine. Peut-être que c'est pas assez rentable pour les éleveurs de valoriser cette matière. Je pense qu'Olivia va pouvoir nous répondre. Quand tu dis que la laine est issue de l'élevage ovin, c'est parce que c'est des élevages qui sont là pour leur viande ou autre chose, comme le fromage, par exemple, j'imagine.
Ouais, donc, tout à fait.
Et c'est ce qu'on appelle un sous-produit. C'est quoi la différence entre un coproduit et un sous-produit?
D'après mes connaissances, un coproduit, c'est considéré comme une production agricole, alors qu'aujourd'hui, la laine, elle est considérée comme un sous-produit par l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle est considérée pas vraiment comme un déchet, mais elle va plus s'apparenter à ça qu'à une production agricole.
Donc, on n'arrive pas à valoriser tellement la laine d'un point de vue statutaire, donc politique, mais aussi économique. Forcément, ça a des répercussions sur le prix de la laine.
Oui, bien sûr. Le prix de la laine, ça va dépendre des races, ça va dépendre des filières qui sont plus ou moins structurées. Et sachant qu'en France, on a des filières qui sont très très peu structurées hein, par rapport aux pays producteurs comme ceux de l'hémisphère sud. On a des prix d'achat de matières premières qui sont très dévalorisés.
D'accord. Parce que sinon, en attendant, on va plutôt acheter de la laine en Chine et la transformer ici ou ailleurs, ou de la laine encore ailleurs dans l'hémisphère sud, quoi.
Mais voilà, en gros, il y a 80% des laines françaises qui sont exportées. Elles vont être transformées à l'étranger puisque, on l'a dit tout à l'heure, ça va demander beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de savoir-faire pour la transformer. Et ben, aujourd'hui, avec l'industrialisation et la mondialisation, on se retrouve avec une grande partie des outils industriels qui sont à l'étranger et aussi avec une main-d'œuvre beaucoup moins chère à l'étranger. Donc on a tout intérêt à faire transformer au plus loin pour avoir un produit fini qui va revenir à plus bas coût possible.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Voilà, mais ça, c'est des problématiques similaires à l'ensemble de l'industrie textile.
Ouais, on va en parler dans tous les épisodes. Ce que je pouvais te demander aussi, c'est... Parmi toutes ces étapes de transformation de la laine, du mouton qui broute dans les champs au pull que je vais porter, est-ce qu'on sait comment est traité l'animal en France ou ailleurs? Est-ce que ça lui fait mal qu'on lui prenne sa laine, par exemple?
Alors, pas du tout. Je vais parler de la France puisque c'est l'exemple que je connais le mieux. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à la base de la laine, bah, c'est une matière première qui a été sélectionnée donc, pour être récoltée. Donc, la tonte du mouton, à la base, elle existe pour récolter une matière. Mais aussi, bien évidemment, pour le bien-être de l'animal, puisque c'est une fibre à pousse continue, en fait, comme nos cheveux. Donc, si on la coupe pas à un moment donné, elle va pousser jusqu'à ce que l'animal soit vraiment en difficulté pour sa santé. Une laine qui est trop longue, ça permet pas à la peau de l'animal de respirer. Ça veut dire que le mouton peut être parasité et qu'on va moins pouvoir voir ce qui se passe sous cette épaisse toison pour prendre soin de lui. Donc, en vrai, c'est vraiment cette histoire de petites coupes rafraîchissantes annuelles pour la santé du mouton, tout simplement.
Mais si les moutons vivaient gambadés dans les champs librement, est-ce que les moutons sauvages existent encore? Et est-ce que, du coup, leur poil pousserait et pourrait mourir étouffé sur leur laine? Qu'est-ce qui se passerait, en fait?
Alors, en fait, il y a encore le mouflon, qui est l'ancêtre du mouton. Et le mouflon, lui, il perd sa laine naturellement chaque année. Il y a la mue, en fait. Et le mouton est une domestication du mouflon. Et en fait, il a été sélectionné pour ne plus perdre sa laine de façon naturelle, de façon à ce que l'homme puisse récolter lui-même la fibre.
D'accord. Donc en fait, tant qu'il y aura des moutons, on devra les tondre.
Tout à fait. En tout cas, la tonte, c'est pas du tout une étape douloureuse pour l'animal, bien au contraire. C'est une étape qui dure à peine quelques minutes. Donc en fait, c'est un coup de tondeuse passé sur le corps. Et c'est une étape qui va être vertueuse pour lui, puisque c'est une étape qui va lui permettre de stimuler son appétit derrière. Enfin, vraiment, c'est un bon coup de frais pour le mouton, à condition que ce soit fait dans de bonnes conditions.
Et est-ce qu'il existe des laines plus écolo que d'autres? Est-ce qu'il y a des certifications, par exemple, des choses comme ça, qui pourraient être des indicateurs de qualité?
Ben, après, sur le côté écologique, ça va dépendre vraiment de la filière de transformation. Si on se limite à une filière locale, sans carbonisage, sans apprêt chimique ou sans teinture, on va être sur quelque chose d'extrêmement naturel, puisqu'on l'a dit, la laine, elle pousse sur le dos du mouton, elle ne demande pas d'énergie supplémentaire pour être produite. Si elle est produite localement, elle va avoir une empreinte carbone extrêmement faible. Après, en termes de certification, il existe des labels internationaux qui vont garantir l'approche biologique de l'élevage, par exemple. Je ne sais pas s'il y a une transparence totale sur le process de transformation. Ce que je sais, c'est qu'en France, il n'existe pas de labellisation pour la laine encore. C'est pas quelque chose de structuré. Un label, c'est très complexe parce que c'est pas forcément très inclusif. Ça demande d'établir des critères spécifiques. Et on est face à une industrie qui est complexe. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu une vaste question. Je dirais qu'un label n'est pas forcément suffisant et ne remplace pas une transparence totale.
Ok, pousse. Je réalise que c'est un peu comme le cuir, en fait. La laine est une matière qui a le cul entre deux chaises minimum. Entre l'industrie agroalimentaire d'un côté et celle de la mode de l'autre côté. Toutes deux mondialisées as fuck. Consommer de la laine locale serait génial pour s'assurer davantage de traçabilité. Mais ça coûte cher et les petites structures françaises en ont rarement les moyens. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de label français de certification structurée et fiable. mais je voudrais quand même vous parler de quelques infos qu'on trouve parfois sur des étiquettes ou l'affiche produit d'un vêtement. La certification RWS, Responsible Wool Standard, et la certification GOTS peuvent être de bons indicateurs côté respect des animaux, des travailleurs et de l'environnement. Vous pouvez aussi parfois lire, auprès de marques, un label qui s'appelle No Mulesing, M-U-L-E-S-I-N-G. Ça veut dire que les moutons dont on a pris la laine n'ont pas subi de mulesing. Désolé pour mon accent. Le mulesing, c'est une technique assez atroce qui consiste à retirer tous les bourrelets près des fesses des moutons qu'on veut de plus en plus gros pour avoir de plus en plus de laine. Parce que dans ces bourrelets, il pourrait se développer des miasmes et ça pourrait donc créer des soucis de santé pour le pauvre bichon. Sauf que ce lifting non consenti du cul des moutons s'avère traumatisant. Surtout quand il est pratiqué sans anesthésie. Mais cette technique, autrefois commune en Australie, est en voie de disparition, rassurez-vous. Donc si vous voyez « no mulesing » sur une fiche produit, tant mieux. Sinon, ça ne veut pas forcément dire que votre mouton a subi cette technique en train de disparaître, encore une fois. Sur les étiquettes, ce que vous avez peut-être remarqué, c'est que le 100% laine se fait de plus en plus rare. C'est souvent mélangé avec du synthétique. Le plus connu, c'est l'acrylique, une sorte de laine en plastique. Et on va demander tout de suite à Olivia à quoi sert ce genre de mélange.
Ben, moi, je m'y connais très peu, en fait, en matière synthétique. C'est vraiment pas le cœur de notre métier, mais ce qu'on voit, c'est que souvent, il y a des... En fait, c'est une histoire de prix, c'est une histoire de coût. Les matières synthétiques, elles coûtent pas cher du tout à produire. Elles sont très uniformisées, elles sont pas vivantes, donc elles sont faciles à industrialiser. Elles sont faciles à entretenir.
Elles sont stables,
en fait. Et elles sont complètement standardisées. Après, elles n'ont pas toutes les propriétés merveilleuses qu'on a citées tout à l'heure par rapport à la laine, et elles sont beaucoup plus polluantes. Souvent, on parle de laine quand on voit une pelote, alors que parfois, enfin surtout dans la grande distribution, quand on trouve des pelotes en rayon, ce sont en fait des pelotes d'acrylique.
Oui, voilà. L'acrylique, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas les propriétés d'absorption de l'humidité de la laine, ni antibactérienne, et donc c'est aussi pour ça qu'on pue dans un pull en acrylique, par exemple.
Exactement, et que c'est très inconfortable à porter, en fait.
C'est inconfortable à porter, et en rayon, ça a l'air bien, parce qu'il y a des traitements qui font que ça a l'air moelleux, et que ça reflète bien la lumière et tout. Mais dès qu'on le lave, tout ça, ça s'en va à la machine et hop, on se retrouve avec une serpillière, quoi, généralement.
Oui, c'est ça. Et puis après, on perd aussi tout le sens à la production, à la façon dont est fabriqué le vêtement, à d'où vient la matière première. En fait, on perd toute cette connexion-là avec quelque chose finalement d'un peu naturel. On perd un peu le sens qu'on peut avoir derrière le vêtement.
Mais l'avantage de l'acrylique, puisque c'est pas si manichéen, c'est qu'effectivement, c'est très, très stable et donc il y a peu de chances que... Enfin, hormis le premier lavage, après, il y a peu de chances que ça rétrécisse ou des choses comme ça, quoi. Puisque c'est une matière qui n'est pas vivante.
Ouais, tout à fait.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est hautement inflammable. Donc, si jamais vous êtes à la montagne et que vous avez besoin d'allumer un feu, bah, un pull en acrylique, ça fonctionne très bien.
Parfait. Sachant que la laine, c'est à l'inverse, c'est très utilisé dans les tissus techniques, notamment pour les avions, les trains, puisque c'est très difficilement inflammable. En fait, ça s'enflamme à peu près à partir de 600 degrés. Donc, par rapport à la prévention incendie, tout ça, c'est plutôt assez recherché.
D'accord.
Enfin, souvent, elle est utilisée pour ses
et qui s'appelle polyester. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Si vous voulez en savoir plus sur l'acrylique, le polyester et les matières synthétiques en général, on va y consacrer tout un épisode de Matières Premières qui sera bientôt dispo.
Et est-ce que tu aurais des astuces, des conseils pour bien choisir un vêtement en laine si on peut le toucher en boutique ou en friperie, des choses comme ça?
Pour des indicateurs, quand une laine est certifiée bio, ça veut dire qu'elle n'est pas française, puisque les labels sont internationaux, ce qui n'est pas grave, hein, mais en tout cas, ça permet de le savoir. Et que souvent, quand c'est bien brillant, que c'est très uniforme, c'est que ça a été quand même traité assez chimiquement après la filature, quoi.
Et donc, c'est un peu surprenant de savoir que oui, une laine bio, elle est forcément pas française, quoi. Parce qu'on a des productions trop petites pour que ce soit intéressant de chercher à obtenir cette certification.
Je pense qu'il y a ça. Je pense que l'élevage en bio est quelque chose qui se démocratise et qui évolue, mais qui n'est pas encore suffisamment représenté. Et effectivement, il y a l'histoire du coup d'un label, hein, et qui n'en voit pas forcément l'utilité à partir du moment où aussi on travaille en proximité, en transparence. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de problématiques et que c'est un vrai débat. Qui mérite d'être soulevé, cette histoire de labellisation.
Obtenir un label bio, c'est demander à le recevoir à l'organisme de labellisation, de certification, et pour qu'il vienne auditer votre entreprise, votre méthode de production, il faut le payer, en fait.
C'est ça, tout à fait.
Et ça coûte très cher. Donc, les grosses marques peuvent l'amortir, comme tu le disais, mais les petits producteurs et productrices, ça peut représenter un sacré coût. de tenir le label bio, quoi.
C'est ça.
Donc, quand on est en boutique ou face à un pull en laine, en tout cas en général, s'il est pas tout brillant, c'est pas forcément un signe de mauvaise qualité. Ça peut tout simplement vouloir dire qu'il a pas été traité très chimiquement.
Après, en fait, globalement, en boutique, on va trouver assez peu de laine. Enfin, il faut savoir qu'aujourd'hui, la laine, c'est moins de 2% des fibres qui sont utilisées dans le monde. Donc, loin devant, on a les fibres synthétiques et le coton. Et la laine, elle est très loin derrière. On a vraiment perdu l'habitude d'utiliser de la laine dans nos garde-robes.
Et ce que je vois souvent aussi, c'est de la laine mélangée avec de 20% de polyamide ou bien 50% laine, 50% acrylique. Ça, est-ce que ça a aussi une utilité au-delà de coûter, de faire un produit qui coûte moins cher à la fin?
Ouais. Ben, je pense que globalement, c'est beaucoup ça l'argument, hein. C'est le coût de production, puisque c'est, voilà, le synthétique coûte moins cher. Je pense qu'il y a aussi l'argument commercial ou de communication qui va permettre de dire qu'il y a de la laine en mélange dans le produit. ça va permettre aussi de récupérer une partie de ses propriétés, hein. Les propriétés dont on a parlé tout à l'heure. Après, ça permet aussi de gagner en solidité. Donc pour des usages spécifiques, moi je pense particulièrement aux chaussettes, on utilise du polyamide recyclé dans nos chaussettes à hauteur de 20% pour permettre tout simplement d'avoir une meilleure résistance, puisque là c'est quand même des accessoires qui sont mis en rue d'épreuve avec les frottements dans les chaussures, etc. Donc, et qui ont besoin de durée dans le temps un minimum quand même. Donc ça peut être un usage complémentaire. Mais parfois aussi ça peut venir un peu finalement cacher ou diluer les problèmes de qualité sur la matière utilisée. C'est-à-dire que si on a une laine d'une qualité un peu médiocre, de la mélanger, ça va permettre que ça passe mieux en industrie et que ça soit plus résistant à long terme.
Est-ce que ça ne peut pas aussi permettre, par exemple, de rendre la laine moins susceptible de rétrécir, des choses comme ça, hein, 50% laine, 50% acrylique?
Oui, aussi, bien sûr. Bien sûr.
Bah justement, parlons d'entretien. Comment est-ce que tu recommandes d'entretenir un beau pull en laine ou une est-ce qu'on peut laver à la machine un manteau en laine, par exemple?
Ouais, bien sûr.
En fait, ah bon?
Oui, bien sûr. En fait, c'est une question très importante parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour de ça. En fait, la laine, c'est une matière aussi qui est très écologique puisqu'elle se lave très peu. Donc déjà, la première règle, c'est qu'un pull en laine, ça se lave. Je vais pas dire ça se lave pas, mais ça se lave vraiment très peu puisque ça, c'est une matière qui prend pas la poussière. On l'a dit tout à l'heure, qui prend pas les mauvaises odeurs. Donc l'entretien courant d'un pull en laine ou d'un vêtement en laine, ça va être de le mettre dehors pour qu'il puisse s'aérer. Il va reprendre tout son gonflement et toute sa fraîcheur. Donc l'entretien courant d'un pull en laine, c'est l'aération en extérieur. Point barre. C'est tout. Quand vraiment il a besoin d'être lavé, on peut tout à fait le passer en machine. À partir du moment où on le met à programme laine à froid, l'idée c'est de pas cumuler et du mouvement et de la chaleur. Donc si on le met à un programme laine donc adapté parce qu'il sera tout doux et à froid, on n'aura pas de chaleur. Il y aura aucun risque pour qu'il puisse feutrer, donc il pourra pas rétrécir. Ensuite, un séchage à plat, ce qui est recommandé. Donc finalement, très simple, très facile.
Mais comment ça, on peut mettre un manteau en laine à la machine, au programme laine, d'accord? Mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours écrit sur l'étiquette « nettoyage à sec » ?
Parce que je pense qu'on doit se... Certainement, le fabricant doit se...
Prémunir.
De toute bêtise de la part du consommateur qui se serait trompé et qui l'aurait passé à 40.
D'accord, ok.
C'est pour ça, moi personnellement, je passe mes vêtements en laine à la machine programme laine à 30 degrés. Ils ne bougent pas, mais je sais que ma machine, elle a un programme laine qui est très doux, donc ça marche très bien. Mais nous, on dit toujours à nos clients, programme laine à froid, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de bêtises de température. Parce que ça ne fait jamais plaisir quand le pull a perdu 3 tailles.
Est-ce qu'on peut rattraper justement un pull qui aurait perdu 3-4 tailles?
On peut l'offrir à quelqu'un de plus petit ou à un enfant.
D'accord.
C'est encore la meilleure façon de faire, puisque de toute façon, le process de feutrage qui a été engendré, c'est un process qui est irréversible. Ce qui fait la solidité du feutre. Ça a des bons côtés, mais ce qui fait que non, on ne peut pas rattraper un pull en laine qui arrête ici.
Un manteau ou un pull qu'on fait sécher à plat, c'est pour éviter que ça se déforme, c'est ça?
Oui, c'est ça. Après, ce qu'on disait, c'est que c'est une matière très résiliente, donc ça reprendra sa forme sans problème. Mais ça évitera d'avoir la trace du fil, effectivement, quand on veut le porter une fois sec.
Et est-ce que c'est une matière qu'on sait recycler facilement, la laine?
Je pense qu'on n'a pas tant d'informations que ça sur le sujet. Déjà, il existe, je pense, très peu d'outils de recyclage en France. Ça va soulever quand même plusieurs questions. Celle de la perte de qualité de la matière première, puisque là, on va se retrouver avec des fibres qui seront cassées, donc des fibres qui seront raccourcies. Ça va forcément demander à être mélangé avec des fibres synthétiques pour gagner en résistance. Donc ça, c'est quand même une limite. Il y a aussi l'histoire du traitement de la couleur. puisque quand on va recycler des vêtements en laine ou autre, d'ailleurs, il va falloir pouvoir maîtriser la couleur. Donc, il va falloir déteindre, ce qui va demander des produits chimiques. Et ensuite, ça va demander une énergie supplémentaire. L'intérêt du recyclage, il peut être assez limité et qu'il faut vraiment le positionner comme une technique complémentaire à des habitudes de consommation un peu différentes pour produire moins, mais des vêtements de meilleure qualité qui vont durer plus longtemps.
Et justement, j'imagine aussi que les vêtements en laine recyclée, c'est des vêtements où les fibres sont plus courtes et donc elles boulochent plus facilement. Ça a un rapport ?
Tout à fait. Le boulochage, c'est pas irrémédiable dans le sens où les bouloches, ça peut se raser. Et une fois qu'elles sont rasées, en fait, ça veut dire que les fibres courtes, elles sont sorties et après, ça bougera plus. Donc, dans une démarche d'entretien d'un vêtement à long terme, c'est pas forcément un problème. Mais effectivement, la problématique des fibres courtes, ça va être surtout un problème de résistance du fil.
D'accord. Donc, quand on achète un vêtement en laine de première main ou de seconde main, s'il bouloche au début, peut-être qu'il faut s'accrocher un temps et après, il ne boulochera plus une fois qu'on aura rasé les premières bouloches.
Ouais, c'est ça.
Et encore une fois, le recyclage, ça demande toujours de l'énergie, donc c'est une solution de dernier recours, quoi.
Voilà. Mais en gros, le recyclage n'existe qu'à partir du moment où il y a vraiment du surplus et que si on avait des productions plus adaptées à nos besoins, on aurait moins besoin de recycler finalement et ça se limiterait à une démarche d'économie circulaire.
Bon bah voilà, je crois qu'avec Olivia, de Laine Paysanne, on a tout dit, non ? Je retiens surtout que la laine, c'est une super matière, et que si on la mélangeait pas autant avec du synthétique, on n'aurait même pas besoin de la laver. C'est une matière caméléon en fait, qui peut aussi bien servir à faire un pull tout moelleux qu'un manteau archi résistant. Ou même de la déco, ou des sièges d'avion, par exemple. Si vous voulez connaître d'autres secrets de l'industrie de la mode, eh ben on se retrouve la semaine prochaine dans le nouvel épisode de Matières Premières en fait. Du coup, je vous donne rendez-vous lundi prochain dans le flux Les mini-séries de podcast de Mademoiselle pour le prochain épisode de Matières Premières sur les soies, la viscose et tout ça. En attendant, pensez à parler du podcast autour de vous, nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et plein de commentaires. Merci beaucoup. Allez, salut.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.